Les journées de l'économie.
GECO.
GECO, l'édition 2013.
Bonjour à tous. À l'occasion des Journées de l'économie 2013, nous avons la chance de nous trouver avec Michel Aglietta au Salon du Livre de l'économie. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci à vous.
Pour commencer peut-être avec le thème général des Journées de l'économie de cette année, reconstruire la confiance, on peut peut-être vous demander pourquoi avoir choisi ce thème maintenant, sachant que les dernières perspectives économiques, la France, dont la croissance pour le troisième trimestre était de moins 0,1%, là les chiffres viennent de tomber, ils n'ont pas très bon. Est-ce que c'est maintenant le bon moment pour justement essayer de reconstruire la confiance?
Oui, enfin, si vous avez, bien sûr, c'est sans doute essentiel de le faire, mais ce qui est important, c'est que cette notion de confiance, c'est à la fois un mot attrape-tout, hein, et en même temps quelque chose d'important, mais que la théorie économique a du mal à définir. Alors, il y a deux choses qu'il faut penser, qui sont quand même complètement différentes malgré tout. Il y a la confiance comme le processus des marchés financiers. Ça, c'est quelque chose qui est intrinsèque aux marchés financiers parce qu'ils sont essentiellement fondés sur des croyances. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une dette, hein? C'est un commerce de promesses. Ce n'est pas autre chose qu'une promesse sur le futur. Et par conséquent, c'est la promesse que finalement vous serez remboursé si vous êtes le créancier. Hein? Pour les marchés de titres, hein, les marchés d'actifs qui ont des prix qui sont affichés, hein, de savoir si on est liquide. C'est-à-dire, moi je suis un investisseur, j'investis mettons dans des actions et je ne sais pas à quel moment j'aurai besoin de récupérer mon argent. Et je veux être sûr de pouvoir récupérer mon argent à n'importe quel moment parce que je ne sais pas, je ne peux pas dire à l'avance quelles sont mes dépenses, quand c'est que j'aurai besoin de cash. Hein. Et donc la confiance, vous voyez qu'à quel point c'est un processus collectif. Ça veut dire pour que je puisse récupérer mon argent et donc pour que j'investisse, sinon je ne le ferai pas. Il me faut penser que les autres, il y aura quelqu'un d'autre qui aura envie de l'acheter. Donc je suis obligé d'anticiper ce que les autres vont anticiper. Et c'est ça qui fait problème de confiance collective ou de défiance collective. Hein. C'est-à-dire, c'est le processus de mise en... espèce de mise en commun implicite, parce que le marché fait ça sans que personne s'en rende compte, mais en réalité, il y a des interactions stratégiques sous-jacentes des psychologies des gens. C'est-à-dire que je ne peux investir dans le futur qu'en pensant à ce que les autres pensent sur la même chose que moi. Ça, donc, la confiance est intrinsèque à la finance. Alors, maintenant, on parle de confiance sur toute autre chose. On parle de confiance par rapport à une espèce de désagrégation sociale rampante qui existe dans nos sociétés européennes et qui est liée, si vous voulez, au fait qu'il y a un désarroi général, à la fois du fait des conséquences extrêmement fortes de long terme qui se passent dans nos économies incapables de surmonter la crise. C'est-à-dire à la fois le chômage de masse de longue durée, à la fois les énormes inégalités de revenus, le fait que les revenus médians, hein, les 50% en dessous, hein, de la population baissent, le fait qu'il y a une pauvreté rampante qui s'accroît, etc. Le fait que vous avez maintenant des diplômes sans pouvoir trouver d'emploi, ça pose un problème, si vous voulez, social. Alors c'est une autre notion de confiance, celle-là. Elle n'est pas liée à un processus d'interaction d'acteurs privés. Elle passe par l'État. C'est une confiance, c'est une défiance dans le système politique qu'on a actuellement. Et celle-là, elle est peut-être la plus inquiétante, évidemment. La confiance des marchés, on sait comment elle se rétablit. Elle se rétablit par la Banque centrale. On l'a vu, hein. Les banques centrales sont capables, puisqu'elles concernent la liquidité, ce que j'ai appelé la liquidité. Les banques centrales sont capables, ben, vous avez vu, aux États-Unis, au Royaume-Uni, elles achètent les dettes qu'il faut, et puis voilà. Même en Europe, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait par des prêts gigantesques aux banques. Donc la confiance financière, la banque centrale est capable de la maintenir, si elle y met les moyens. Et comme elle a a priori... Vous voyez, pourquoi la banque centrale peut y mettre tous les moyens qu'elle veut? C'est que le passif qu'elle émet donc la monnaie qu'elle émet, par définition de la souveraineté que la Banque centrale a dans l'ordre monétaire, eh bien, elle est acceptée par tous. Le seul cas où ça pourrait ne pas l'être, c'est l'hyperinflation. Mais vous voyez qu'on est à l'opposé. Là. On est dans une situation, au contraire, on craint la déflation. Donc, la monnaie est acceptée par tous. Donc, elle peut en émettre autant qu'elle veut pour établir la confiance. En revanche, le type de problème que nous avons, qui est celui d'une désagrégation de la société, beaucoup plus grave, puisqu'alors il suppose une confiance dans le système politique, dans un leadership capable de dire « voilà, je montre une voie du futur et l'État va créer les instruments de mobilisation du secteur privé de nouveau ». Donc c'est par exemple des instruments de mobilisation des PME qui investissent, capables de résoudre ces problèmes bancaires pour que les banques se remettent à faire crédit, capable de dire eh bien il faut arriver à ce que les salariés et les entreprises repensent la notion de l'entreprise comme une équipe au lieu de dire que l'entreprise ne sert qu'à essentiellement maximiser les revenus des actionnaires, de façon à remettre dans le mouvement en l'ensemble des forces productives du pays, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui sont des gens dans la population active. Et ben ça, c'est un problème beaucoup plus difficile. Et c'est ce dont nous souffrons. Et on ne peut pas mélanger l'un et l'autre, vous voyez, car le second est vraiment un problème politique fondamental. Et nous manquons en Europe à de leadership, et en particulier en France. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en même temps, vous avez des politiques dans le bon sens qui ont été menées. Quand le gouvernement français a décidé de faire du crédit d'impôt pour la compétitivité aux entreprises, je pense les deux mesures les plus importantes qui ont été prises récemment. Et puis cette idée d'avoir conclu des assises de sociale avec les syndicats, le patronat, puis de dire on va faire plus de flexibilité, on se met d'accord pour les uns abandonnent certains revenus, les autres maintiennent l'emploi, mais il faut aller beaucoup plus loin, c'est ça le problème. C'est que si vous ne faites pas un pacte pour l'innovation, et si vous ne dites pas à la société, y a un axe de l'innovation, elle doit suivre une certaine voie. Cette voie, c'est, mettons, le développement soutenable, la croissance durable. Il n'y a pas de processus qui fait boule de neige où les entreprises se mettent ensemble pour travailler dans le même sens. Et le résultat, c'est que l'investissement baisse toujours. Si vous voulez, l'un des critères de manque de confiance, c'est aussi le niveau entreprise. Donc là, je vous ai parlé du niveau la finance, le niveau la société en général, vis-à-vis de ce problème de désagrégation sociale. Et le troisième niveau, c'est l'investissement. Tant que vous ne voyez pas l'investissement repartir, l'investissement productif de part, hein, des entreprises, or il baisse depuis plus de 2-3 ans. En France, c'est quand même assez grave, parce que tous les travaux sur les entreprises de taille petite et moyenne montrent que le capital vieillit, c'est-à-dire non seulement on n'investit pas pour accroître les capacités de production, mais on n'investit plus assez pour les moderniser, pour les renouveler. Auquel cas, ça veut dire que la productivité, au lieu de repartir, est en train de baisser, etc. Donc, arriver à redonner la capacité d'investir, c'est vraiment le troisième élément fondamental. Voilà ce que je voulais dire sur la confiance.
Que vous allez intervenir sur la notion de crise financière cet après-midi, et notamment sur la question de savoir s'il est possible d'éviter les crises financières. Comment expliquez-vous en fait l'idée d'une impossibilité à prévoir les crises financières ? Est-ce un échec de la théorie économique actuelle qui n'arrive pas à modéliser correctement les marchés financiers et donc à prévoir les éventuelles crises financières à venir ?
Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est la compréhension de ce qu'est l'incertitude. Vous ne pouvez pas plus prévoir une crise financière que vous pouvez voir un tremblement de terre. Voyez, c'est-à-dire qu'on est dans des systèmes, qu'on appelle des systèmes complexes, dans lesquels il y a interconnectivité de tout sur tout. Et dans de tels systèmes, vous avez ce que les Anglais appellent des tipping points ou des points critiques, à partir duquel le régime de fonctionnement du système change complètement. Alors, la crise financière, c'est exactement ça. C'est un moment dans un processus d'accumulation, de tension, qui lui-même est lié à une phase d'euphorie. C'est ça le point intéressant. Hein. Et puis, à un moment donné, Il y a une révélation que ces tensions deviennent impossibles à continuer. Et évidemment, dès lors que les prix, par exemple, de l'immobilier, puisque c'est la dernière crise, sont montés à des niveaux tels... On considérait jusqu'à la crise... Et il y a une rationalisation, si vous voulez, de la chose, de l'aveuglement. Jusqu'à la crise, on considérait que les prix immobiliers, c'était normal qu'ils montent, ils pouvaient monter indéfiniment. Puis tout d'un coup, on change de point de vue, hein? C'est, on revient sur la confiance d'ailleurs, on rechange de point de vue et tout s'effondre d'un coup, avec des effets énormes, parce que tout ça est financé par endettement, etc., ce qu'on appelle crise systémique. Donc c'est impossible de prévoir ce moment. Ce qu'il faut faire, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure, mais d'autres, je pense, auront les mêmes idées, c'est d'essayer, et donc c'est qu'il faut faire pour qui? Pour les organismes dits de régulation prudentielle. Hein, les banques centrales en font partie, mais aussi le Trésor public qui a des relations importantes avec les entreprises, et avec les entreprises de la finance notamment. C'est d'essayer de repérer les vulnérabilités du système. Hein. C'est-à-dire que le système devient vulnérable en ce sens que du risque caché s'y inscrit. Et il reste caché tant qu'on est dans l'euphorie de monter, la richesse augmente, etc. Alors c'est quoi ces vulnérabilités? Certaines sont structurelles. C'est le fait d'avoir, en particulier, avec l'innovation financière, créé des mécanismes de transfert de risques, de relations entre banques, puis en ce qu'on appelle les shadow banks, les banques fantômes, etc., hein, qui sont des organismes mal régulés, mal connus. Ben, tout ça transmet une énormité de risques. Hein. Et c'est comme si quand vous avez des toiles d'araignée trop compliquées, à un moment donné, il suffit que ça se coupe à un endroit, puis ça se coupe partout. Vous prenez l'image du circuit électrique. Hein. Un circuit électrique est complètement interconnecté. Si vous le coupez à un endroit, il va s'effondrer. Alors, c'est ce qui se passe. Donc, il faut éviter les vulnérabilités. Pour cela, ça veut dire qu'il faut faire ce qu'on appelle... Alors, maintenant, on a commencé à le comprendre et on construit les outils du macro-prudentiel, c'est-à-dire des repérages de ces vulnérabilités au fur et à mesure où elles peuvent se produire. C'est ce qu'on appelle les tests de stress, hein, que les banques centrales peuvent faire vis-à-vis des banques. C'est qu'on peut repérer à condition d'aller le regarder, ce qu'on ne faisait pas. À regarder le fait que dans les banques, par exemple, il y a, pour financer leurs crédits, elles s'endettent elles-mêmes de plus en plus. Pour financer des actifs, pour financer des crédits qui sont à moyen terme et qui ne sont donc pas liquides, elles s'endettent de plus en plus court. Donc elles sont sensibles évidemment à l'impossibilité de renouveler leur propre dette. Et immédiatement, ça réagit sur leur crédit. Et si ça réagit sur leur crédit, ça réagit sur les autres banques, etc. Donc c'est éviter ce type de vulnérabilité. Et donc, ça me semble être la solution, si vous voulez. Et donc, ce macro-prudentiel, il suppose ça, et il suppose aussi probablement que dans sa politique monétaire, c'est-à-dire dans la manière dont elle gère les taux d'intérêt, la banque centrale prenne en compte l'excès de crédit. Et donc, ça, vous voyez, alors l'idée est bien la suivante. C'est ça qui est intéressant. Dans la phase euphorique qui mène à ces vulnérabilités, les gens sont trop optimistes. Ils prennent trop de risques parce qu'ils sont trop optimistes. Ils ont trop confiance, d'une certaine manière. Et donc, il faut réduire cet optimisme pour que, ensuite, quand la crise viendra, c'est-à-dire quand le cycle se retournera, les prix des actifs finissent toujours par retourner. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'il y a crise. Mais elle ne soit pas systémique. C'est-à-dire qu'elle n'ait pas des effets catastrophiques en chaîne parce que les banques resteront robustes. Vous voyez, vous avez eu des tas de crises comme ça. En 1980, même en 2000, là, il y a eu l'effondrement de la bulle Internet. Étant donné que ça n'impliquait pas les banques fortement, ben elle a passé, quoi. Elle a passé comme il y a eu un ralentissement de l'économie, il y a même eu une petite récession, mais il n'y a pas eu de catastrophe. Pareil, en 1987, il y a eu tout d'un coup une crise boursière énorme, et c'était comme un jeu de casino, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Quand ça devient vraiment le truc systémique, c'est parce que ça implique tout le système bancaire. Donc il faut éviter ça, voilà ce que je veux dire.
Donc c'est un peu en quelque sorte la leçon qu'on pourrait tirer de cette crise actuelle.
Oui. Absolument. En revanche, je peux peut-être terminer là-dessus, si on veut vraiment supprimer les crises financières, il y a une possibilité. C'est supprimer les marchés. C'est-à-dire que dans l'après-guerre, tout était financé par les banques. Les banques étaient elles-mêmes contrôlées par l'État. en France, mais aussi dans toute l'Europe. Les taux d'intérêt étaient fixés, en fait, dans des plages limitées parce que le Trésor décidait. Ben, on a eu 30 ans de croissance sans aucune faillite bancaire. Mais comme disait le général de Gaulle, à cette époque-là, la politique de la France ne se faisait pas à la corbeille. Ce qui veut dire ne se faisait pas à la bourse. Aujourd'hui, tout est pour la bourse et tout est pour l'actionnaire. Donc, derrière ça, donc vous voyez, par rapport, là je vous ai donné les raisons pour lesquelles on pouvait limiter les crises. Et si on veut vraiment, disons, remettre la finance au service de l'économie, comme on dit, à ce moment-là, il faudrait revoir complètement le rôle des marchés financiers, en fait le rôle de Wall Street en quelque sorte, dans la finance.
Très bien, merci beaucoup.